Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
Bonjour Stéphane. Mais quelle pagaille ! Déjà, que le Rassemblement National représente un tiers des votants, il faut digérer la nouvelle. Bien que le résultat soit attendu, heureusement, il choque toujours. Mais alors, la dissolution qui suit derrière, je vous avoue que je m'en remets pas. Tout va si vite. Le temps s'est accéléré comme je ne l'avais jamais vu. Chaque heure qui passe charrie avec elle une marée d'informations qu'il nous faut avaler et digérer, alors que dans la foulée en surgissent de nouvelles qu'il faut encore ingurgiter. Bref, c'est à s'en donner des maux de ventre. À cela, il faut rajouter ses propres pensées. Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Comment est-ce possible? Quel visage aura l'Assemblée nationale le 7 juillet? Et la pire de toutes, parce qu'elle fait place à l'horreur dans notre tête, si le RN passe, qu'est-ce qui va se passer? Je vous rassure, nous n'allons pas essayer de répondre à toutes ces questions dans cette chronique. S'il ne faut qu'un instant pour dissoudre l'Assemblée nationale, les réponses aux questions que pose cette dissolution semblent infinies. Et pas sûr que vous ayez envie de m'écouter pendant une éternité. Mais, maintenant que la sidération est passée, risquons-nous à au moins essayer de comprendre ce qu'il se passe. Vous le savez sûrement déjà, la couleur politique de notre futur gouvernement dépendra de celle majoritaire à l'Assemblée. Elle peut être monochrome, ça on en a l'habitude. Elle sera peut-être de la couleur du président, bien que tous les analystes politiques nous disent que c'est hautement improbable. Qu'on soit partisan ou non d'Emmanuel Macron, il y a très peu de risques pour que son parti nous gouverne à compter du 8 juillet. Ça, pour le coup, ce n'est pas totalement un saut dans l'inconnu. La Ve République a déjà connu trois périodes de cohabitation, de 1986 à 1988, de 1993 à 1995, puis de 1997 à 2002. Passé la stupeur de la première, les deux autres n'ont pas apporté d'instabilité. Comme dans énormément de démocraties à travers le monde, le chef du gouvernement obtient dans cette configuration plus de pouvoir que le chef de l'État, ce qui, à l'époque, n'a dérangé ni la droite ni la gauche. Ce n'est donc pas la possibilité d'une cohabitation qui génère les passions, mais son contenu. Il nous reste trois possibilités. Une majorité de députés du nouveau Front populaire, une majorité de députés du Rassemblement national, et aucune majorité claire pour aucun camp. Penchons-nous dessus. Premier cas, l'élection d'une majorité de députés du nouveau Front populaire. Pas vraiment un saut dans l'inconnu non plus, il a déjà été fait en 1936 par une coalition allant du Parti communiste français de Maurice Thorez, alors très lié à l'URSS de Staline, en passant par le marxiste Léon Blum, jusqu'au Parti radical qui allait du centre au centre-gauche. Bon, bien qu'il n'ait pas mis le pays à feu et à sang, sa base était tellement branlante qu'il n'a même pas duré 2 ans. Mais prenez quand même le temps d'imaginer cela aujourd'hui. Comment une telle majorité a pu se faire et tenir? La nécessité des circonstances l'exigeait. Et puis, on l'a refait de 1997 à 2002, avec le gouvernement de la gauche plurielle de Lionel Jospin, idem, très large rassemblement allant des communistes aux écolos, avec même, on a tendance à l'oublier, la présence du trublion Jean-Luc Mélenchon comme ministre délégué à l'enseignement professionnel. Pas 2 ans, mais 5 cette fois, et idem, on ne peut pas dire que cette période fut instable. Donc voilà, les coalitions de gauche, on est pour ou on est contre, mais on connaît. D'ailleurs, comme n'importe quel autre gouvernement, leur bilan plaît plus à certains et moins à d'autres, et tous ont pu exprimer leur opinion dessus par les urnes. Bref, quoi de plus normal qu'un camp qui gouverne pendant que les autres râlent? Ces périodes n'ont été ni la fin de la pensée critique, ni de la démocratie. Deuxième cas, aucune majorité claire. Bon là, je vous avoue que je sèche. Tout au plus, je peux vous donner l'exemple de la fin de la dernière législature italienne, où il était tellement impossible de mettre les différents partis du pays d'accord entre eux que le président de la République a été obligé de faire former un gouvernement d'union nationale. En clair, puisqu'aucun ne peut diriger seul, alors on fait diriger un peu tout le monde en faisant un gouvernement avec tous les partis. On ne peut plus mener de grands projets politiques, on traite seulement les affaires courantes en attendant les prochaines élections. Imaginez donc qu'on aille chercher le vieux sage de votre choix, un vieillard le plus consensuel possible et pas encore trop sénile, pour tenir la boutique pendant 1 an sans faire trop de vagues jusqu'à une nouvelle dissolution. Une solution du moindre mal, qui aurait pour mérite de temporiser un peu cette période de profonde recomposition politique. Chacun prend le temps de se mettre au clair avec ses idées, et une fois cette réflexion passée, on décide à nouveau. On n'a jamais essayé, et je vous avoue que ça m'inspire autant qu'un demi verre d'eau tiède. Mais bon, après tout, c'est bien de boire de l'eau de temps en temps. Pour ce qui est de la troisième possibilité, à savoir la prise du pouvoir par le Rassemblement National et ses alliés, nous la traiterons dans notre prochaine chronique, car le temps manque. Mais déjà, nous pouvons nous dire que ce scrutin a de fascinant, que l'éventail des résultats possibles est bien plus grand que d'habitude, et que chacune des possibilités a des chances ou des risques de se produire. Dès lors, posons-nous la question. Devons-nous avoir peur de nos choix ?
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.